On ne peut pas parler d'Émile Picler sans parler de la liberté de mouvement, sans parler de l'activité spontanée, auto-induite du bébé et toute l'importance qu'elle y attache. Non seulement l'importance, mais toutes les recherches qu'elle a faites autour de cette notion. Et il me semble, on peut dire de découverte qu'elle a fait autour de ce problème, dans la mesure où elle a montré que spontanément et par lui-même et du fait d'une programmation, le bébé qui est placé sur le dos à la naissance et auquel est laissée une liberté de mouvement tout du long, compte tenu d'une relation affective, chaleureuse et tout, c'est pas que la liberté de mouvement, il y a tout ce qu'il y a autour. Je pense qu'on en parlera après. Mais cette liberté motrice laisse cet enfant, s'il est accompagné dans un environnement où on répond aussi à ses centres d'intérêt, mais sans stimulation directe, simplement en disposant autour de lui les éléments dont il peut se saisir, on le voit passer à son rythme, de façon harmonieuse, en toute sécurité, de la position à plat dos à la marche debout. Et c'est là où on retrouve l'éducation nouvelle, qui est que laisser cet enfant faire comme il le sent, comme il l'éprouve, comme il l'intègre, comme il le réexpérimente encore et encore et encore, et il va acquérir cette maîtrise de son propre corps. Donc, alors, je sais pas, là-dessus, on peut peut-être commencer à réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette liberté motrice. Alors, moi, je crois que c'est lié très fort d'abord à un grand souci de l'enfant en bonne santé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de faire que l'enfant soit pas malade avec les vaccinations, les soins, les petits problèmes, etc. C'est vraiment qu'il soit pleinement à l'aise dans son corps et qu'il puisse vivre son corps comme un lieu de sensation plaisante avec lequel on peut être en bonne relation et aussi dont on peut devenir maître, qu'on peut progressivement animer comme on le veut. Et pour ça veut dire qu'il y a une très grande attention à ne pas créer de tension. Il y a une très grande attention à ne jamais mettre l'enfant en position de déséquilibre qui soit la source de malaise. Donc ça conditionne toute une réflexion sur le portage, ça conditionne toute une réflexion sur comment conduire un soin, qu'il s'agisse d'un repas ou qu'il s'agisse d'un bain ou d'un change. Ça veut dire aussi comment on aide l'enfant dans les changements de situation. Comment il passe du jeu au soin ou du soin au jeu, et que c'est pas quelque chose de neutre, il faut l'accompagner là-dedans pour que ce soit pas brusque, en rupture, mais en continuité. Il y a vraiment toute une réflexion autour de ce bien-être corporel et de cette continuité offerte à l'enfant. Et je pense que ça a des effets lointains très importants.
Est-ce que vous voulez bien nous raconter votre parcours professionnel qui vous a préparé à cette rencontre?
Madame Aubry m'a recrutée pour faire passer des textes de Güzel à ses enfants pour voir ce qu'ils devenaient dans ces murs. Donc, je suis tombée dans un lieu épouvantable où vraiment je ne pensais pas que ça pouvait exister. De misère pour tout le monde, un peu, parce que. Alors, c'était en 1948, donc c'était très peu de temps après la guerre, il y avait encore des restrictions, donc même les vêtements des bébés étaient un peu pitoyables, on n'avait pas de manteau pour les faire sortir, on n'avait pas. Il n'y avait pratiquement pas de jouets, c'était pas prévu au budget, enfin, c'était vraiment. C'était limite, quoi. Et surtout, je suis tombée sur des bébés comme j'en avais jamais imaginé, de tristesse, d'apathie ou alors de stéréotypie ou de hurlement. Et comme j'étais entourée d'enfants à peu près du même âge à cette époque-là, dans ma famille, le contraste entre ces bébés et les autres était tout à fait surprenant. Et j'ai commencé à les tester pour constater qu'ils chutaient régulièrement, donc c'était tout à fait intolérable. Donc j'ai commencé à essayer de voir ce que je pouvais faire avec eux. Et j'ai fait ce que tout le monde faisait avec les enfants, c'est-à-dire d'essayer de leur proposer des jouets, de les stimuler et tout. Donc j'ai pris des jouets chez tous les membres de ma famille et les copains, des vêtements aussi pour pouvoir les sortir dans le jardin. Donc j'ai fait l'aumône un peu partout. Et puis, en fait, ça donnait rien parce qu'ils étaient en deçà d'une stimulation et je me trouvais même dans des situations impossibles parce qu'après, ils ne voulaient pas me quitter, ils pleuraient quand je les ramenais dans leur chambre. Et bon, il faut dire qu'ils avaient tous encore les petites chaînes autour du cou avec les numéros et qu'il y avait des enfants dont on ne connaissait pas le nom, c'est-à-dire qu'on avait le nom à l'administration, mais le personnel qui s'occupait d'eux n'avait pas de nom. Et au moment des siestes, on entendait « Est-ce que c'est toi qui as le 848 ?» Et alors on regardait, les numéros étaient marqués au crayon sur les oreillers. Et alors on disait « Ah oui, il est par là !» Et donc on traînait le petit 848 à 20 ans. Si en plus on se souvient que c'était en 48 et qu'on n'était pas très loin de la découverte des camps et des immatriculations. Bon, donc ça évoquait vraiment... au bout de 2 ans, j'avais l'impression qu'on débouchait sur rien, que tous les gens qui venaient visiter n'y comprenaient rien et qu'il fallait aller ailleurs comprendre ce qui se passait pour ces enfants. Et j'avais pratiquement décidé de partir ou en Angleterre chez Anna Freud ou aux États-Unis. Alors il faut dire qu'on commençait à avoir la littérature qui arrivait, on commençait à avoir les travaux sur les séparations, sur... l'hospitalisme, sur toutes choses qui étaient absolument nouvelles. Bon, comme je parlais couramment anglais, je pouvais lire dans le texte des choses qui n'étaient pas encore traduites. Et au moment où j'avais obtenu une bourse pour partir, j'ai été arrêtée dans mon départ pour des raisons familiales. Et à ce moment-là, en plus, Myriam David est arrivée, recrutée par Jenny Aubry. Et alors, elle avait passé presque 3 ans aux États-Unis, au Children's Center, avec des gens bien connus comme Beata Rank, qui l'a supervisé pendant des années, Molly Putnam, les Deutsch. Donc, elle avait une vision tout autre, elle avait travaillé avec les enfants qu'on appelait à l'époque les enfants atypiques, qui étaient en fait les autistes actuels, je pense. Et elle a pris les problèmes de façon complètement différente en comprenant tous les mécanismes qui à la fois se passaient pour ses enfants, mais aussi et surtout les mécanismes institutionnels qui faisaient que... on n'arrivait pas à transformer ce soin aux enfants et que on était dans une grande maltraitance avec des gens de bonne volonté. Et comment faire pour surmonter cette maltraitance d'une part en aidant ces gens et comment faire pour aider ces enfants. Donc il y a des psychothérapies qui ont été mises en place, elle a pris aussi en charge la supervision du jardin d'enfants, donc qui est devenu plus un groupe thérapeutique. Il y avait moins d'enfants, ils y allaient différemment et la jardinière était tout à fait douée. Il y a eu tout un projet de recherche qui était en parallèle avec un projet de recherche de la Tavistock autour de Bowlby. Donc il y avait des rencontres régulières avec Bowlby, mm-hmm. qui préparait son livre sur soi maternel et santé mentale. Il y avait des rencontres régulières avec les Robertson, qui après ont fait leur film sur la séparation. Et il y avait deux projets de recherche parallèles, mm-hmm. avec, donc ça c'était absolument mm-hmm. passionnant, et on a commencé vraiment à avoir l'impression qu'on commençait à y voir un petit peu clair dans tous les facteurs en jeu autour de ces réactions à la séparation, la carence affective, etc. Donc ça c'était une première expérience mm-hmm. fondamentale. Après, soutenu par Bowlby et par des gens de l'OMS, il a été possible de mettre une recherche, alors d'une toute autre nature et beaucoup plus fine et précise, auprès de nouveau-nés séparés de leur famille parce que nés dans des milieux où régnait la tuberculose et qu'on les isolait pendant le temps où on les protégeait par le BCG. Et donc, on a conduit un projet de recherche d'enfants séparés de la naissance jusque 2-3 mois dans une pouponnière qui avait le souhait d'être aussi peu carentielle que possible et qui nous a fait qui était là avant que la, non, où j'étais avant que la recherche ne commence et qui avait déjà travaillé pour éliminer les facteurs de carence en introduisant une stabilité d'adulte auprès des enfants, une certaine régularité dans les soirs, enfin un certain nombre de choses. Voilà, donc c'était surtout essentiellement ces deux postes de travail qui m'ont préparé à la rencontre avec l'Institut Picler. Je pense qu'il y avait aussi autre chose sûrement important, c'était tout le travail fait auprès du service social et aussi auprès des éducateurs, notamment auprès des CMEA, des centres d'entraînement en méthode d'éducation active, parce que tous ces gens-là étaient devenus sensibles aux problèmes de séparation et aux problèmes de séjour en institution. Et du coup, ils nous demandaient de venir travailler avec eux les observations. Donc, à l'époque, on n'avait pas encore la vidéo, donc on travaillait sur des observations écrites et partagées avec eux et discutées avec eux. Et aussi, on avait été sollicité par l'UNCAF, qui était le prédécesseur de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, pour faire tout un travail d'observation dans une colonie maternelle, parce qu'ils se demandaient ce qui se passait vraiment pour les enfants si jeunes. Certes, on leur donnait du grand air et, des bonnes, et un temps de vacances, entre guillemets, mais est-ce que vraiment ils en profitaient, compte tenu du fait qu'ils étaient très petits et que pendant un mois, on les plongeait dans une collectivité en les sortant de leur famille. Donc il y avait eu tout ça, et pour moi... ce partage, d'une part avec les services sociaux autour du casework et de l'approche des familles, et d'autre part avec les CMEA, toutes les méthodes d'éducation nouvelle, je pense que ça m'a aussi beaucoup préparé à rencontrer l'Institut Picler, parce que il y avait dans leurs préoccupations, en particulier les CMEA, ce respect de l'enfance, ce projet de partir de l'intérêt de l'enfant pour lui transmettre les connaissances, de totalement respecter son rythme et les procédures qu'il mettait en place pour s'approprier les connaissances qu'on lui proposait. Bon, il s'agissait d'enfants plus grands, il s'agissait d'enfants scolaires ou préscolaires, mais c'était quand même quelque chose que transposé pour le bébé, quelque part, j'ai retrouvé à l'Institut Picler.
Si on voudrait proposer à découvrir des gens qui ne connaissent pas l'outil, Par quelle idée on pourrait introduire le découverte ou la proposition insolite de cette institution? Par quoi vous vous étiez saisi dans un premier temps, peut-être dans le discours de Judith Falk à cette rencontre, et puis après à votre visite?
Alors, la première rencontre avec Judith Falk, c'était plutôt qu'elle me dérangeait terriblement, parce qu'elle affirmait des choses qui étaient en contradiction avec ce que nous défendions à l'époque, qui était que une institution pour des tout-petits, c'était vraiment un grand risque carentiel, que je continue à penser tout à fait, et que c'était très difficile de lutter contre ces facteurs de carence et d'espérer offrir à l'enfant un milieu où il puisse se construire. Et certes, à la Pouponnière à Millau, donc où j'étais quand j'ai rencontré Judith Falk, on avait éliminé certains de ces facteurs de carence, en particulier en instaurant un système d'adultes stable et préférentiel, même s'il n'était pas une seule personne à s'occuper des enfants. Mais il y avait quand même une personne dominante, si j'ose dire, qui était aussi un de leurs critères importants. Mais à part ça, tout ce qu'elle disait autour de l'activité spontanée des bébés, autour de comment respecter cette activité spontanée, c'était très loin de la pensée de l'époque où on était quand même plutôt dans une certaine stimulation, même si elle était prudente. Cette conviction aussi qu'elle amenait que c'était pendant les soins que la relation devait s'établir, alors qu'on était plutôt dans des soins un peu rapides pour avoir après ça le temps de garder le bébé dans les bras et de bavarder avec lui, que c'était là qu'on établissait la relation. Enfin, beaucoup de choses qui nous dérangeaient. Et dans cette première rencontre au Centre international de l'enfance, elle m'a vraiment interpellée, ce qui fait que je suis allée la voir après la séance, j'ai parlé avec elle, et puis je l'ai invitée à la Pouponnière à Millau, parce que ce qui m'a immédiatement attachée, c'était la connaissance qu'elle avait des bébés et la connaissance qu'elle avait de la vie institutionnelle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un ayant une connaissance aussi fine des bébés. Ça c'était vraiment... une fois qu'on avait senti ça, on ne pouvait pas passer à côté. Donc elle est venue à la Pouponnière à Millau et la première visite n'a pas été facile parce qu'elle est arrivée et au fond, elle avait des choses qu'elle appréciait, mais elle a critiqué beaucoup de choses dont nous étions très fiers, dont on sortait les bébés des lits, on les mettait dans ce qui n'était pas des baby relax parce qu'ils n'existaient pas, mais ce qu'on avait inventé, des petits fauteuils avec des petits coussins pour qu'ils soient bien calés et tout. Et elle arrivait en descendant tout ça en flèche et il faut dire qu'elle n'expliquait pas beaucoup pourquoi. Et quand on lui demandait pourquoi, elle était très sobre dans ses réponses. C'était un peu énervant, mais en même temps, les réponses étaient très pertinentes. Donc, au bout d'un moment, bien que sobre, elles étaient pertinentes, donc on ne pouvait pas passer à côté. Donc, un cas, la visite s'est poursuivie et en partant, elle nous a invités à aller à Budapest, à l'Institut, qui ne s'appelait pas encore comme ça. S'appelait l'Institut méthodologique pour les foyers de jeunes enfants. Nous étions, Malou Klang et moi, assez interpellés pour se dire, après tout, on va y aller. Et donc, nous y sommes partis. On est partis en prévoyant de rester 3 jours, en organisant des visites en Tchécoslovaquie, parce que j'avais rencontré aussi des Tchèques. Donc, on a aussi été à Bratislava et à Prague, ce qui n'était pas mal. Mais quand on a été les 3 jours à Budapest, on s'est dit qu'on aurait dû rester plus longtemps parce qu'on n'avait pas du tout fait le tour de la question et qu'après les visites à Bratislava ou à Prague, c'était sympathique, mais il n'y avait rien de révolutionnaire. Tandis que Budapest, on était vraiment interpellés avec... en rentrant avec ce sentiment de où est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment tout à fait remarquable, ou est-ce que c'est du bluff, ou on se laisse prendre, mais qu'en fait les enfants vont pas si bien. Il y avait des côtés pour nous tout à fait insupportables et alarmants. Et j'ai souvent repensé depuis que ce qu'on me disait ne pouvait pas me convaincre. Le discours qui était tenu à cette époque-là par rapport à où nous en étions et à nos références, qui étaient beaucoup plus au niveau de la relation, au niveau des références psychanalytiques et tout. Là, on était beaucoup plus au niveau dans les présentations, hein, pas dans le fonctionnement, mais dans les présentations, au niveau de l'activité. Et...
Mais par contre, ce que vous avez vu des bébés...
Par contre, les bébés, comment ils étaient, leur visage, leur expression, leur manière de se déplacer, de jouer, et leur qualité relationnelle avec les adultes, et aussi la manière dont les adultes s'adressaient aux bébés. Enfin, tout ce qu'on voyait était pour nous tout à fait bouleversant. Et ce qu'on entendait était tout à fait irritant. Donc, en fait, on est reparti avec ça. On a fait un bref petit rapport. Et puis on a essayé d'intéresser les gens. Bon, les gens, ils n'étaient pas très intéressés, il faut dire ce qui est. Mais quand même, j'étais suffisamment, et Malou là-dessous me soutenait, intriguée pour essayer de persuader la personne qui me semblait aussi le mieux connaître les bébés et être plus au clair sur les problèmes institutionnels, qui était Myriam David. Et donc, 2 ans après, nous sommes repartis, et cette fois, alors, pour 15 jours, et avec un programme, un programme à la Myriam, c'est-à-dire qu'on ne chômait pas, et qu'on n'était pas là pour se faire plaisir aussi, ce n'était pas défendu, mais on avait posé nos conditions, en demandant à Amy Picler si elle voulait bien nous recevoir 15 jours. On avait en plus eu des exigences qu'elle avait acceptées, qui étaient la possibilité de voir tous les groupes, la possibilité de voir les enfants dans toutes les situations, de faire des observations de longue durée et de la rencontrer sur ces observations. Ce qui s'est imposé à nous, c'était la complexité des propositions picleriennes et la complexité de leur application en collectivité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à la contribution de Picler dans la compréhension du bébé et à ce qu'elle en a fait au niveau des institutions. C'est-à-dire, il y a Picler et l'Oxy. C'est bien sûr une seule et même chose, mais c'est intéressant d'y réfléchir séparément, je pense. Parce que... il n'y a pas que dans les pouponnières que des choses que Picler a mises en valeur peuvent être utilisées. Ça peut être aussi bien dans la famille, avec une approche très prudente et différente de ce qu'on peut faire en collectivité, mais aussi dans tous les lieux collectifs, que ce soit la crèche, l'hôpital, et pas seulement les pouponnières.
Alors, si on voudrait faire découvrir ce que nous avons découvert grâce à cette rencontre que d'abord vous avez eue et après vous avez transmis en France, avec quoi pourrait-on commencer?
Moi, je pense qu'il faut voir les enfants. Je pense que tout ce qu'on raconte n'a jamais la force des images que ces enfants nous envoient. Ça ne veut pas dire que tous les bébés qui sont accueillis à l'Oxy vont bien. Il y en a quelques-uns qui arrivent avec des problèmes de handicap. Il y a des moments où un enfant peut rencontrer des difficultés dans sa vie à l'institution pour X raisons. À l'époque où j'ai fait connaissance de l'institut, c'était surtout des bébés nouveau-nés qui arrivaient. et des bébés, la plupart du temps, sans famille. Donc c'était une population d'enfants qui entrait très vite dans ce mode d'éducation, ce mode d'élevage. On n'a pas de bon mot en français, je ne sais pas ce qu'il faut, ce mode de soins. Ils arrivaient avec la souffrance de la séparation, mais c'était tout. Ils étaient par ailleurs un peu indemnes. Donc il y avait, la plupart des enfants allaient bien. Actuellement, c'est tout à fait différent. Ils ont beaucoup plus la population que nous recevons et que on a toujours reçue depuis que j'y ai travaillé dans les foyers de l'enfance, c'est-à-dire une population souvent déjà d'enfants très traumatisés pour des raisons diverses. Donc actuellement, quand on va à l'institut, on voit plus d'enfants en souffrance qu'on avait l'occasion d'en voir dans mes premiers contacts. Mais il y a quand même toujours un noyau d'enfants qui vont bien. Et bon, moi je trouve que ce serait intéressant qu'on les voit.